Salut, c'est Alexis. Nous sommes le 17 janvier. On est vendredi, c'est bientôt le week-end. Voilà, probablement vous écouterez peut-être ça dans le week-end ou plus tard, quand vous voulez. Ça me fera plaisir dans tous les cas. Alors, au programme, deux petites news, enfin une grosse news quand même, sur le no-code et deux news plus petites sur l'IA. Allez, on attaque. La première news, très simple, on va parler de Glide. Alors, j'ai pas encore testé, mais ils ont sorti quelque chose qui était attendu depuis assez longtemps, qu'ils ont appelé les workflows. Workflow en anglais, ça veut dire un flux de travail. C'est une automatisation, un processus digitalisé. On pourrait dire ça. Enfin voilà. Donc, en gros, c'est vraiment l'idée qu'à l'intérieur de Glide, désormais, vous avez un moteur d'automatisation qui est inclus dans Glide, comme un espèce de mini Make ou Zapier à l'intérieur de Glide, qui s'exécute dans le back-end, comme on dit, donc en tâche de fond. À bien distinguer des actions qui existent déjà dans Glide depuis très longtemps et que je trouve extrêmement bien faites, les actions, c'est ce qui se passe dans le front-end. Donc, en gros, le fait que vous pouvez, de manière visuelle, programmer des actions. Par exemple, quand un utilisateur appuie sur un bouton, quand un utilisateur fait quelque chose dans l'application, vous pouvez déclencher des actions, modifier la base de données, ajouter des données, etc. Ça, c'est donc ce qu'on va appeler des workflows front-end potentiellement, mais ça s'appelle des actions chez Glide. Et tout ce qui est plutôt back-end, en coulisses, dans le moteur, c'est les workflows. Alors, les workflows, la manière dont ça fonctionne, donc c'est comme dans une automatisation, vous avez des déclencheurs et puis ensuite vous avez des actions. La programmation visuelle se fait comme pour les actions, c'est très très visuel, vous pouvez faire des boucles, vous pouvez faire des conditions, etc. Donc c'est hyper bien fait. Et en termes de déclencheurs, vous avez trois déclencheurs. Un déclencheur qui est un schedule, c'est-à-dire que c'est un déclencheur temporel, donc vous dites tous les jours à 22h, je veux qu'il se fasse telle et telle action. Vous avez un déclencheur par rapport à une réception d'email, donc un email qui arrive dans une boîte donnée et puis déclenche le workflow. Et vous avez des webhooks. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que Glide attend que vous appeliez un webhook. Et donc, si ce webhook est appelé, eh bien, vous faites déclencher suite d'action. Donc, c'est pas mal. C'est assez, ça couvre pas mal de choses. Ce qui est un peu surprenant, j'en discutais l'autre fois avec mon ami Stan, donc un expert Glide, c'est que vous n'avez pas de déclencheur comme on aurait pu un petit peu s'attendre, dire quand une nouvelle ligne est ajoutée dans la base de données, je déclenche une séquence d'actions. Il n'y a pas cette logique-là que vous retrouvez typiquement dans les déclencheurs Airtable de Zapier, par exemple. Un nouvel élément qui est ajouté, un élément qui est modifié ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas fait ça. Ma théorie, je ne suis pas du tout un expert Glide, et même là, les workflows, je ne les ai pas vraiment testés, j'ai juste regardé la petite vidéo de présentation. Évidemment, ça, je vous le mettrai dans les ressources. Mais ma théorie, c'est qu'en réalité, dans Glide, et je peux me tromper, hein, mais je pense que dans très très souvent, en fait, la modification de données va intervenir par une action front-end, par un bouton, par un formulaire, par quelque chose. Et donc, sur les actions front-end, eh ben, vous avez déjà la possibilité de toute façon de programmer des actions, de faire des choses. Donc, voilà, peut-être ça que je me dis. Alors, il doit y avoir des cas de figure où ça ne suffit pas, mais en tout cas, c'est un choix qu'ils ont fait. Et je trouve que chez Glide, ils sont quand même assez balèzes en produit, donc en product management, je dirais. Donc je pense qu'ils ne l'ont pas oublié par hasard. Voilà, c'est une théorie. Dites-moi ce que vous en pensez. On peut en discuter comme d'habitude sur sur NoCode France, sur le canal Média, il y a XNoCode. Voilà, c'est vraiment un sujet pur NoCode. Donc vraiment, n'hésitez pas. Stan, si tu écoutes ça, n'hésite pas à me dire s'il y a quelque chose que j'ai raté. Mais je pense que voilà, en fait, l'un dans l'autre, et ils doivent, en termes, on ne doit pas être trop bloqué. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on peut programmer en front et ce qu'on peut programmer en back, ça doit le faire. Donc voilà, bon, il y a toujours un petit peu des trous dans la raquette, mais voilà, c'est des parties prises qui sont assez forts. Voilà, moi je trouve que Glide, voilà, c'est un outil qui est très puissant. À ça, ce que je viens de dire vient s'ajouter aussi toutes les automatisations qu'ils ont à l'intérieur de leur base de données, les traitements, les computations, comme ils appellent ça. Donc ils ont des types de champs dynamiques dans leur base de données. Bon, désolé, là je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais sachez que Glide, pour manipuler de la donnée, c'est quand même très très puissant. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Glide, c'est vraiment un outil tout en un qui est très puissant, qui est très peu customisable sur la partie design. C'est un choix, c'est un parti pris, parce que Glide, c'est fait pour faire des outils internes. Mais sur la puissance de calcul, sur la programmation visuelle, moi, depuis longtemps, je trouve que c'est un outil qui est très 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 intéressant. Et là, ces workflows ne font que continuer à aller là-dedans, quoi. Voilà, ça c'est la petite news de Glide, vous pouvez aller voir dans les notes hein, le lien vers la petite annonce sur X, et puis il y a une petite vidéo qui explique hyper bien, qui est très claire. Autre news no code du côté de chez Notion, j'en ai parlé dans la matinale, mais je vais le répéter là pour le podcast. Désolé, en fait, il va y avoir un peu des intersections entre mes différents formats, entre les vidéos YouTube et tout. Mais je vais essayer de pas trop me répéter pour que vous écoutiez un petit peu tout. Mais à la fin, tout va se retrouver dans la newsletter, de toute façon. Donc voilà, au pire, si vous devez regarder qu'un truc, c'est la newsletter, l'air un peu tout. Mais une news que j'ai trouvée quand même assez intéressante, que j'ai vu passer sur LinkedIn, là, sur le LinkedIn de Lou, qui est une ambassadrice Notion. Elle disait que donc il y avait un note taker qui allait arriver. Alors note taker, c'est quoi? Désolé, anglicisme. Mais vous savez, c'est ces petits assistants qui peuvent se connecter dans une réunion sur Zoom ou sur Google Meet et qui vont prendre des notes à votre place en utilisant évidemment les sous-titres, etc. Et voilà, qui vont vous mettre les notes ensuite quelque part. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Notion, ils ont déjà un calendrier, vous pouvez planifier vos réunions avec et tout. Et puis tout ça, en plus, comme ça, la prise de notes va se retrouver dans Notion. Puisque déjà, vous aviez en fait un outil, là, quand vous calez une réunion, il peut vous créer une page Notion dans une base de données avec vos comptes rendus de réunion et tout. Là, carrément, il va vous mettre du contenu de compte rendu. Donc, en termes d'intégration, c'est très malin, c'est très fort. La suite un petit peu bureautique de Notion, c'est quand même, ils sont vraiment dans le futur. Hein. Franchement, si je compare un petit peu de ce que je vois de loin avec Google Workspace, bon, qui est quand même pas mal aussi à la pointe, hein. Ils ont mis un peu leur IA Gemini un petit peu partout. Ou du côté de Microsoft, on a aussi Copilot qui vient un petit peu partout. Mais bon, voilà, il faut voir. Donc voilà, mais ça, c'est la petite note, c'était intéressant du côté de Notion. Passons un petit peu sur les news au niveau de l'IA. Deux petites choses que j'ai notées. Alors, une première chose que j'ai notée, que j'ai vu passer dans une newsletter, c'est un rapport comme quoi Amazon travaille sur le fait de rendre son assistant Alexa un peu plus intelligent. Alexa, vous savez, c'est les assistants comme on a depuis très longtemps. Moi, j'ai un Google Home, les assistants qu'on a chez nous, ou alors sur nos montres ou sur les téléphones, etc. Et en fait, il y a un truc, c'est vrai que moi, c'est une question que je me pose depuis un moment, c'est que ces assistants, ils sont vraiment très, très bêtes, quoi. Enfin, franchement, moi, je veux dire, mon Google Home, globalement, je ne peux pas vraiment lui poser de questions. Je peux lui demander la météo, je peux lui demander éventuellement, je l'utilise surtout pour mettre de la musique ou la radio ou des trucs comme ça, mais on ne peut pas lui poser de questions, il n'y a pas d'intelligence, quoi. Et quand on voit que depuis 2 ans, les LLM sont quand même devenus quand même un peu intelligents, enfin on peut leur poser des questions un peu structurées, et c'est vrai qu'on se demande, mais comment ça se fait qu'ils n'ont toujours pas fait la fusion, quoi. C'est-à-dire que les Google Home, les Alexa et compagnie, les Siri, même c'est pareil pour Siri, hein. Moi je ne suis pas dans l'écosystème Apple, mais Siri c'est pareil, on ne peut pas lui demander grand-chose, quoi. On peut lui demander d'envoyer des messages ou je sais pas quoi, mais on ne peut pas lui poser des questions un peu intelligente, et puis c'est pas connecté un peu, pas forcément bien avec tout notre écosystème. Donc voilà, et donc en fait, apparemment, chez Amazon, ils travaillent là-dessus, évidemment, sauf que le problème, c'est qu'il y avait trop d'hallucinations et que c'était trop lent à répondre, et donc ils pensaient que, en fait, ça ferait plus de mal que de bien de mettre ça, et donc ils préféraient garder leur assistant Alexa un peu teubé, mais pas mettre un truc qui serait déceptif, quoi. Et c'est vrai que, vu qu'on est dans un contexte purement vocal, t'as pas 36 chances, quoi. C'est-à-dire, tu poses une question, si t'as pas ta réponse tout de suite et qu'elle est pas correcte, tu peux avoir une discussion, hein, pourquoi pas, mais c'est pas pareil que, déjà, s'il a mal compris la transcription vocale et tout, c'est pas comme du texte où c'est un peu plus fiable, quoi. Donc, les interfaces conversationnelles en mode chat textuel, ont quand même encore pour l'instant un peu d'avenir. Et on le voit, Google Assistant, a priori, ils ont toujours pas décidé de lui mettre d'intelligence. Je lui ai demandé un truc l'autre fois, juste pour tester, parce que je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas vu passer, mais en fait ils ont mis Gemini dedans ou pas. Non, franchement, il était complètement à l'ouest, quoi. Donc voilà, donc on verra bien, mais a priori voilà, c'est un sujet et je peux comprendre que il y a un truc un peu de contrôle qualité, quoi. Et dernière chose, quatrième petite news d'aujourd'hui, j'ai reçu l'email de récap un peu de OpenAI pour les devs, le OpenAI Digest comme ils appellent ça. Bon, il y a différentes choses, O1 est progressivement disponible en API. Mais ce que j'ai noté notamment, et c'est un truc dont j'ai jamais parlé, et dont Shuba m'a très bien parlé récemment dans sa vidéo, là où... je mettrai le lien, j'ai pas envie de me lancer dans l'explication de la vidéo, je vais vous parler direct. Donc, OpenAI a une API qui s'appelle Real-Time API, qui est une API temps réel pour passer de l'audio à l'audio. En fait, c'est-à-dire, vous lui parlez, il fait la transcription, il mouline la réponse et puis il vous renvoie un audio de réponse. Et tout ça en temps réel, avec une latence très faible. Et donc, c'est disponible via API. Alors, c'est un peu technique à s'en saisir. Mais Shubham, il a réussi à brancher ça à Twilio, qui est un outil qui permet de faire des appels téléphoniques, etc., automatiquement, notamment. Et donc, en fait, il a pu faire un vrai, pour le coup, un vrai agent qui est capable de répondre au téléphone et de donner des réponses à des questions qui lui sont transmises en audio. Et tout ça, il a pu le faire grâce à Realtime API, qui est une API qui est disponible hein, et qui est quand même assez intéressante, donc un peu technique à intégrer, mais qui, je pense que voilà, les IA aussi peuvent vous aider à intégrer ça, mais c'est assez balèze, quoi. Donc il faut l'avoir en tête. C'est typiquement ce qui est utilisé quand vous utilisez le mode conversation dans votre appli ChatGPT, et ben le mode conversation vocale, ben, c'est ça qui est utilisé en dessous, et donc vous pouvez utiliser la même chose, vous, dans vos propres projets, quoi. Voilà, donc ça c'était un des trucs, et donc en fait ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient amélioré les performances, et qu'ils avaient aussi intégré le modèle 4O mini pour qu'il y ait encore que ce soit moins cher et qu'il y ait moins de latence et tout. Donc voilà, donc c'est intéressant. Vous pouvez tester les autres news, je ne vais pas forcément les commenter, mais voilà, ça c'est vraiment un truc que je voulais mentionner, parce que quand même, Realtime API, je ne l'ai pas utilisé, mais je trouve que c'est quand même vraiment un truc assez intéressant, et puis assez bluffant, hein, parce que si vous avez testé de discuter un peu avec ChatGPT maintenant, là, depuis les récentes versions, bon, on est sur des discussions quand même quasi temps réel, relativement intéressante, on peut l'interrompre, machin, il y a vraiment, c'est fort. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.